Je suis donc heureux de vous accueillir pour cette avant-dernière séance. Nous aurons le plaisir de ce soir d'entendre Jean-Jacques Rosa, que je ne vais pas présenter puisque vous l'avez déjà vu, entendu. Et donc, il est inutile que je m'attarde à le présenter longuement. Je dirais simplement que son sujet de recherche principal est la psychologie de la philosophie de la philosophie de la psychologie, excusez-moi, de Wittgenstein. Et la question qu'il va traiter ce soir est: pourquoi une philosophie de la psychologie doit-elle être synoptique et comment peut-elle l'être? Vous avez la parole.
Je vous remercie. Je voudrais simplement signaler que sur le petit document que vous avez en principe tous entre les mains, j'ai fait figurer bien entendu le plan et les citations de cet exposé, mais aussi le programme du colloque qui aura lieu dans 15 jours, ici, et qui s'intitulera « Wittgenstein, les images de l'esprit ». Alors, parmi les différentes manières de concevoir et de pratiquer la philosophie qui sont considérées au cours de ce séminaire, celle de Wittgenstein constitue un pôle particulièrement intéressant à cause de la radicalité de ses options. En effet, elle représente le cas d'une philosophie qui s'efforce d'être, premièrement, non métaphysique, ce qui signifie notamment qu'elle s'abstient de tout questionnement ou de toute assertion ontologique. Deuxièmement, d'une philosophie qui s'efforce d'être non thétique, au sens où elle entend n'assumer aucune thèse, ce qui implique qu'elle ne saurait être systématique, dans la mesure où, de manière très élémentaire, un système de philosophie, c'est un ensemble de thèses logiquement liées entre elles. Et troisièmement, enfin, elle s'efforce d'être non théorique, ce qui entraîne évidemment qu'elle est aussi non scientifique. Alors, il y a quelques semaines, Denis Perrin avait expliqué ici comment, dans ses manuscrits du début des années 30, et puis dans la première partie des recherches philosophiques, Wittgenstein décrit lui-même son approche en se fixant pour but la vision synoptique, Übersichtliche Darstellung. Mon exposé s'appuiera sur le sien, prend la suite du sien, le relais du sien, mais il se concentrera exclusivement sur une période ultérieure de l'œuvre de Wittgenstein, celle sur laquelle je travaille particulièrement, comme l'a indiqué Jacques Bouvresse, à savoir sa philosophie de la psychologie des années 46-49. En effet, pendant ces trois années, Wittgenstein a exclusivement travaillé à se donner une compréhension d'ensemble de la grammaire de nos concepts psychologiques. Par concept psychologique, il faut entendre voir, avoir mal, avoir peur, se représenter mentalement quelque chose, penser à quelque chose ou à quelqu'un, avoir l'intention de faire quelque chose, etc. On peut donc lire les textes de cette époque comme une tentative d'application à l'ensemble du domaine psychologique d'un style de philosophie dont les principes ont été établis antérieurement. Alors à cette époque, Wittgenstein n'emploie plus que très rarement les termes d'Übersicht ou d'Übersichtliche Darstellung, mais il est clair que dans son principe, dans sa visée, il n'a pas changé. Il écrit par exemple, c'est ma citation numéro 1, « Je suis l'inventeur de certains procédés de clarification de la discussion, comme quelqu'un qui aurait inventé de nouvelles sortes, plus Übersichtliche, de comptabilité. » Alors évidemment, cette déclaration est un écho d'une déclaration fameuse qu'on trouve dans le Big Typescript, un texte qui date de 32-33. La grammaire, pourrait-on dire, ce sont les livres de compte du langage dans lesquels doit être donné à voir tout ce qui a trait à nos transactions, ce qui concerne non pas les sentiments, mais les faits. Donc le livre de comptabilité donne à voir l'activité de l'entreprise, au fond, la philosophie, la grammaire philosophique donne à voir l'activité à travers un certain nombre de comptes, donne à voir l'activité langagière qui est la nôtre. Alors, on aura observé que dans cette reprise de l'analogie entre grammaire et comptabilité, l'accent est mis cette fois sur l'invention de procédés nouveaux. Et la même insistance sur de nouvelles techniques de présentation clarificatrice se retrouve dans une autre comparaison que Wittgenstein établit régulièrement à cette époque entre sa propre entreprise et celle des mathématiciens de la seconde moitié du XIXe siècle, qui, comme Weierstrass, par exemple, ont inventé pour le calcul différentiel, qui avait été créé deux siècles auparavant par Leibniz et Newton simultanément ou concurremment, une nouvelle notation. Citation 3 et 4. « Ce que je veux faire est analogue à ce qui s'est passé dans le calcul différentiel quand on a montré qu'il n'opérait pas avec des grandeurs infiniment petites. » Et un peu plus tard, « S'il y a une tentation de considérer le calcul différentiel comme un calcul sur des quantités infiniment petites, alors il est concevable que, dans un autre cas, une tentation analogue puisse être encore beaucoup plus puissante quand notamment elle se nourrit des formes de notre langue tout autour et on peut penser qu'elle devient irrésistible. » Alors, la notation adoptée pour le calcul différentiel dans la période qui a suivi son invention conduisait immanquablement à l'idée que ce calcul portait sur des objets qui avaient pour caractéristique d'être infiniment petits, autrement dit des infinitésimaux. Ce calcul fonctionnait parfaitement, mais évidemment, dès qu'on essayait de réfléchir sur le concept même d'infinitésimal, de se demander ce que c'est qu'un objet infiniment petit, un objet mathématique infiniment petit, on se heurtait à des apories et à toutes sortes de contradictions. Et pour le dire très grossièrement, le travail de Weierstrass et d'un certain nombre de mathématiciens au XIXe siècle a consisté à adopter un autre mode de notation, qui a recours notamment à la notion de limite, et grâce auquel le concept d'infinitésimal, de grandeur infiniment petite, disparaît. Et du coup, toutes les apories qui y sont liées. Ceci résumé très, très grossièrement. Alors, il en va de même pour Wittgenstein dans la philosophie de la psychologie. Nous opérons avec les concepts psychologiques, et tant que nous les utilisons, nous n'avons pas de problème. Mais ceci commence à se poser dès qu'on s'interroge sur les concepts en question, parce que nous avons immédiatement tendance à adopter, alors, pour les décrire, une présentation qui en fait des concepts portant sur des objets internes, des objets intérieurs, des objets, oui, mais intérieurs, mentaux, que personne ne peut voir, observer, etc., ou sur des processus internes. Et donc, le concept d'objet interne étant aussi aporétique, contradictoire et fourvoyant aux yeux de Wittgenstein que celui d'infinitésimal, le travail philosophique consiste à trouver une nouvelle présentation, une nouvelle manière de décrire ces concepts qui soit telle qu'elle fasse disparaître la tentation de présenter ce dont parlent les concepts psychologiques comme des objets ou des processus internes. Citation 5, 6, 7. Ma difficulté est tout à fait semblable à celle d'un homme qui trouve un nouveau calcul, par exemple le calcul différentiel, et qui cherche un nouveau symbolisme. Et encore, Weierstrass introduit une série de nouveaux concepts dans le but de produire de l'ordre dans les pensées concernant le calcul différentiel. Et tout à fait de la même manière, me semble-t-il, je devrais également produire de l'ordre dans les pensées psychologiques. Qu'il s'agisse d'un calcul dans le premier cas et non dans le second, cela n'a pas d'importance. Et enfin, je m'adonne, je crois, à une sorte de mathématique sans notation. Ce qui est tout de même une expression assez extraordinaire. Plus exactement, je fais ce que font aussi les mathématiciens, j'effectue des mouvements de pensée comparables, mais ceux-ci ne trouvent pas leur expression dans une espèce de calcul. Donc, à quoi ressemble ce travail conceptuel de redescription, analogue à celui que les mathématiciens ont opéré, à cette différence près, qui n'est tout de même pas mince, qu'il s'effectue sans notation, sans symbolisme et sans calcul. Alors, prenons comme exemple, je vais essayer de travailler sur des exemples précis, prenons comme exemple le domaine du psychologique ou du mental lui-même, ou plus exactement le problème de sa définition. Comment caractériser ce que nous appelons psychologique ou mental? Très grossièrement, la réponse de Wittgenstein peut se résumer en deux points. Premièrement, sont psychologiques les phénomènes auxquels nous appliquons les concepts psychologiques. Deuxième point, sont psychologiques les concepts qui fonctionnent asymétriquement à la première et à la troisième personne de l'indicatif présent, autrement dit des concepts qui, quand ils entrent dans des énoncés en troisième personne, sont susceptibles d'être vérifiés, justifiés à partir de l'observation, tout comme les énoncés non psychologiques. Mais quand ils entrent dans des énoncés en première personne, ces énoncés ne sont susceptibles d'aucune justification, ni par l'observation, ni par quoi que ce soit d'autre. Exemple, très brièvement, parce que c'est un point bien connu, principe. Si j'affirme « il a mal », on peut me demander « comment le sais-tu ?» Et je peux justifier mon assertion, pardon, par une observation en disant bah, « je le vois cet ordre de douleur, je le vois grimacer ». Mais si j'affirme « j'ai mal », la question « comment le sais-tu ? Comment sais-tu que tu as mal ?» est en quelque sorte absurde. Elle n'admet aucune réponse sensée, sinon une exaspération, une réaction un peu exaspérée du genre « bah oui, je sens que j'ai mal, bon sang, je le sens bien », qui n'est évidemment pas une justification, mais plutôt une réitération énervée de la déclaration initiale. C'est dire que cette caractérisation du psychologique est strictement logique ou grammaticale, au sens où l'entend Wittgenstein, c'est-à-dire qu'elle opère à partir de la seule considération des modalités d'application d'une certaine classe de concepts qui est elle-même définie à partir de la seule considération de ce qu'il y a du sens ou de l'absurdité à dire en réponse à une assertion donnée, ici à une déclaration en première personne. Autrement dit, caractérisation qui repose sur la seule considération des jeux de langage dont cette déclaration en première personne ouvre ou n'ouvre pas la possibilité. Alors une telle caractérisation se démarque clairement du type de caractérisation qui est le plus fréquent dans les ouvrages de philosophie de l'esprit contemporaine et qui consiste à définir le psychologique ou le mental par une certaine propriété, que j'appellerais psy pour simplifier, sont alors déclarés psychologiques les objets, les états, les processus, les fonctions qui possèdent cette propriété psy. Alors ce qui m'importe ici, ce n'est pas de savoir quelle propriété est choisie pour être la propriété psy. En général, les gens élisent pour cela soit la conscience, soit l'intentionnalité. Ce qui m'intéresse, c'est ce mode de caractérisation proprement dit du mental ou du psychique que je qualifierais d'ontologique. En effet, on ne peut utiliser une propriété psy pour caractériser le mental que si on pose en même temps l'existence d'objets en général, d'états en général, de processus en général ou de fonctions en général, tels que parmi eux, certains ont la propriété psy, ce qui fait d'eux des objets, processus, fonctions ou états mentaux, et d'autres ne l'ont pas, ce qui fait d'eux des objets, processus, fonctions ou états non mentaux. Ainsi, la propriété psy n'est distinctive du mental que si elle instaure un partage, mais au sein d'une catégorie homogène d'items qui est une catégorie beaucoup plus générale. Alors c'est ce mode de caractérisation du mental, et c'est ce mode de caractérisation des concepts d'ailleurs en général, que récuse Wittgenstein. Pourquoi ? Parce que c'est un mode de caractérisation qui est adéquat, certes, quand on a affaire à une défense, à une différence empirique, mais qui est inadéquat quand on a affaire à une différence conceptuelle. Alors succinctement, la différence entre ces deux différences peut s'expliquer ainsi. Si je veux distinguer entre un parapluie et une machine à coudre, je peux dire que ce sont deux objets techniques, caractérisés chacun par sa fonction, l'un protégé de la pluie, l'autre coudre des vêtements. Autrement dit, la différence entre leurs fonctions vient s'inscrire sur une sorte de plan de comparaison qui est fourni par la catégorie d'objets techniques. Et de la même manière, si je veux distinguer entre une machine à coudre et une girafe, je peux dire que ce sont deux êtres qui sont produits différemment, l'un comme artefact, l'autre par un processus naturel, et le terme général d'être peut fournir un plan de comparaison. On a affaire, dans les deux cas, des différences empiriques. Mais si je veux distinguer la couleur bleue et le nombre 3, il n'y a pas, sauf à bâtir une catégorisation entièrement artificielle ou déconnectée de la manière dont nous utilisons ces concepts, il n'y a pas de catégorie commune, pas même la catégorie générale d'objets, du moins du point de vue de Wittgenstein, qui viendrait fournir un plan de comparaison sur lequel viendrait s'inscrire une ou des propriétés distinctives. La différence qui est pertinente, la différence qui est intéressante entre ces deux concepts, entre la couleur bleue et le nombre 3, elle est entre leur grammaire, c'est-à-dire entre les jeux de langage dans lesquels nous employons les termes de couleur, par exemple le jeu de langage qui consiste à juxtaposer un objet et un échantillon, ou à se demander si ce bleu-ci est plus clair ou plus foncé que ce bleu-là, et d'autre part les jeux de langage dans lesquels nous employons les termes de nombre, par exemple le jeu de langage qui consiste à compter, celui qui consiste à calculer, etc. Autrement dit, il s'agit d'une différence logique ou conceptuelle ou grammaticale pour laquelle il n'existe pas de plan de comparaison et pour laquelle il serait en tout cas, aux yeux de Wittgenstein, parfaitement artificiel ou illusoire de vouloir en fabriquer un. Ainsi, l'idée qui commande toute la philosophie de la psychologie de Wittgenstein, c'est qu'il nous faut apprendre, premièrement, à traiter la différence entre ce qui est mental et ce qui ne l'est pas Disons par exemple la différence entre voir et digérer, comme une différence d'ordre conceptuel et non pas empirique. Et deuxièmement, apprendre à traiter également les différences entre les différents concepts psychologiques, par exemple la différence entre voir et imaginer, comme des différences non pas empiriques non plus, mais comme des différences conceptuelles. Donc le travail philosophique va consister à nous déprendre de notre mode de description spontané, qui opère au moyen de propriétés présupposant des plans de comparaison, à se déprendre de ce qu'on peut appeler l'illusion ontologique, et à inventer un mode de description nouveau, exclusivement grammatical, qui s'appuie sur la seule considération des jeux de langage et ne présuppose aucun plan de comparaison. C'est précisément ce travail-là que Wittgenstein compare avec celui des mathématiciens comme Weierstrass sur le calcul différentiel. Alors, il vaut la peine de préciser qu'un tel travail peut conduire, d'une part, à porter un regard neuf sur les phénomènes psychologiques eux-mêmes, et d'autre part, à remettre en cause les cadres catégoriels dans lesquels la tradition philosophique a inscrit ses problèmes depuis des siècles, comme par exemple le problème de savoir si les phénomènes mentaux sont en dernière instance identiques ou non à des phénomènes physiologiques ou à des phénomènes matériels. Par exemple, juste à titre d'illustration, il est courant de définir les différents phénomènes psychologiques à partir de la catégorie de fonctions. Il y aurait différentes fonctions psychologiques comme il y a diverses fonctions physiologiques. Remarque de Wittgenstein, c'est la remarque 8, si on dit d'un homme qu'il a une vie psychique, il pense, il désire, il craint, il croit, il doute, il a des représentations, il est triste, il est gai, est-ce analogue à il mange, il boit, il parle, il écrit, il court, donc d'autres fonctions, ou bien analogue à il bouge tantôt vite, tantôt lentement, tantôt vers un but, tantôt sans but, tantôt de façon continue, tantôt par saccade. Autrement dit, un tout autre type de comparaison. L'adoption de la catégorie de fonction focalise notre regard sur la ressemblance de la vie psychique avec la vie biologique, en nous empêchant de voir d'autres ressemblances, par exemple ici, dans l'exemple de Wittgenstein, avec les phénomènes de la conversation, où peuvent nous intéresser, c'est ça qu'il a en tête, la rapidité de l'élocution, le changement d'intonation, les gestes, la longueur ou la brièveté des phrases. Donc les catégories générales, comme celles d'objets, de processus ou de fonctions, créent, sans qu'on y prenne garde, des plans de comparaison qui font manquer les différences intéressantes. Autre réflexion de Wittgenstein dans le même sens, c'est la citation 9. Comparaison de processus et d'états corporels tels que la digestion, la respiration, etc., avec des processus et des états mentaux comme penser, sentir, vouloir. Ce que je veux souligner est précisément leur incomparabilité. J'aurais envie de dire que les états corporels qui leur sont comparables seraient plutôt le rythme de la respiration, l'irrégularité du pouls, le bon fonctionnement de l'appareil digestif et d'autres phénomènes semblables. Et l'on pourrait dire assurément qu'ils caractérisent tous la manière d'être du corps. Alors Wittgenstein ne soutient pas ici une thèse ontologique, selon laquelle les phénomènes mentaux ne relèveraient pas des catégories d'état et de processus, mais de celles de manière d'être. Ce serait encore une autre manière de faire de l'ontologie. Mais il attire simplement l'attention sur une ressemblance à laquelle l'adoption de catégories ontologiques habituelles nous rend en quelque sorte aveugles. Alors, pour étayer ce qui vient d'être dit, il nous faut aller un petit peu plus loin et répondre à la question suivante. En quoi les différences pertinentes pour circonscrire le domaine de la psychologie, et aussi les différences pertinentes au sein de la psychologie, sont-elles des différences conceptuelles? En quoi sont-elles irréductibles à des différences empiriques? Et pourquoi ces différences conceptuelles échappent-elles à la caractérisation ontologique? Je voudrais ici travailler sur un seul exemple, sur une sorte d'expérience grammaticale de Wittgenstein qui peut aider à comprendre cela. Supposons qu'un individu, appelons-le Jean, ferme les yeux et nous dise « je vois une tache rouge ». Comment savons-nous s'il voit quelque chose, en l'occurrence ce serait une image rémanente, ou s'il se représente mentalement quelque chose, autrement dit, s'il est en train d'imaginer une tache rouge? Et non seulement comment le savons-nous, mais comment le sait-il lui-même, si tant est qu'on puisse dire que c'est de l'ordre du savoir. Alors je lis la remarque de Wittgenstein, qui est concise et elliptique comme souvent, et puis j'essaierai de la déplier ensuite. Si quelqu'un fermait les yeux et disait « je vois », comment pourrions-nous décider s'il entend parler d'une image rémanente ou d'une représentation ? Car le mot « voir » ne devrait pas nous frapper. Alors ce serait la manière dont il parle de ce qui est vu qui déciderait cela. Ne sais-tu donc pas si ce qui est vu, une image rémanente par exemple, ou une représentation, ont ou non pour le reste tout à fait le même aspect ? Ou dois-je dire sont ou non tout à fait la même chose ? Cette question pourrait être seulement empirique et signifier à peu près « n'arrive-t-il pas, et même souvent, que quelqu'un garde un long moment devant son âme une représentation inaltérée et qu'il puisse alors la décrire dans tous ses détails, un peu comme une image rémanente ?» Non, le mot « voir » ne peut naturellement pas nous enseigner ce que nous avons à faire de lui. Ce doit être le contexte dans lequel il se trouve. Alors, comment comprendre tout cela ? Premier point, le simple fait que l'individu en question, Jean, emploie le mot « voir » ne peut à lui tout seul décider s'il a affaire à, ou si nous avons affaire, et lui aussi, à une image rémanente ou à une image mentale, puisque nous employons « voir » dans de nombreux cas où, typiquement, nous imaginons. Si, par exemple, je vous dis « ah, je vois d'ici la scène », je veux évidemment dire que j'imagine la scène. Deuxièmement, il n'y a rien dans le comportement observable de Jean qui permette de trancher. Dans les deux cas, il ferme les yeux et il dit « je vois une tache rouge ». Troisièmement, on ne saurait dire que Jean lui-même constate empiriquement qu'il s'agit d'une image rémanente et non pas d'une image mentale, ou l'inverse. En effet, il n'y a rien dans le contenu phénoménal d'une image rémanente, il n'y a aucune propriété distinctive observable R, qui le distinguerait de celui d'une image mentale. Et il n'y a non plus, dans le contenu d'une image mentale, aucune propriété distinctive observable M qui le distinguerait de celui d'une image rémanente. La preuve en est, c'est que si on demandait à Jean, eh ben, décris-nous ce que tu vois, ou ce que tu dis que tu vois, ben, dans les deux cas, que ce soit une image rémanente ou une image mentale, il dessinera ou peindra la même chose, à savoir une tache rouge. C'est d'ailleurs bien ce qu'il nous dit, je vois une tache rouge. Alors pour autant, et c'est le quatrième point, il n'y aurait pas de sens à prétendre que Jean ignore, ou même se demande, s'il a affaire à une image rémanente ou à une image mentale. Personne, quand il a une image rémanente, ne la confondrait avec une représentation mentale, et vice-versa. Mais ce n'est pas non plus que Jean sache à proprement parler qu'il a une image rémanente, puisque s'il déclare « j'ai l'image rémanente d'une tache rouge », il n'y a pas de sens pour un tiers à lui demander « comment le sais-tu » ou « prouve-le-nous ». Sa déclaration « j'ai l'image rémanente d'une tache rouge » n'exprime pas exactement une connaissance, au sens où une connaissance est typiquement une croyance vraie justifiée. Mais simplement, elle exprime une certitude. Plus profondément, et c'est je crois le point qui intéresse ici particulièrement Wittgenstein, on se tromperait du tout au tout sur l'interprétation de la situation imaginée si on cherchait à la rapprocher de situations dans lesquelles deux phénomènes se ressemblent tellement, ont des apparences si semblables, que nous ne sommes pas en mesure de les différencier tout en sachant qu'en eux-mêmes, ils sont de nature tout à fait différente. Par exemple, nous pourrions très bien nous trouver face à deux pierres, ayant exactement la même forme, le même aspect, sans pouvoir décider laquelle doit cette forme et cet aspect à l'érosion, à l'action des forces naturelles, et laquelle doit cette même forme et ce même aspect à l'activité intentionnelle des hommes, une pierre taillée. Dans un tel cas, il y a une propriété spécifique différentielle, être un objet naturel ou être un objet artificiel, qui est une propriété pour laquelle il y a bien un sens à concevoir la possibilité de critères empiriques, observables, par exemple, la possibilité que l'action de tailler laisse sur une pierre des traces particulières, différentes de celles que laisse l'érosion, mais il pourrait se trouver qu'en la circonstance, nous ne savons pas quels sont exactement ces critères, ou bien ils ne sont pas à notre disposition, peu importe. Alors si quelqu'un voulait construire le cas de l'image mentale et de l'image rémanente en les rapprochant de ce modèle, c'est-à-dire comme le cas d'une différence empirique, il pourrait essayer de s'exprimer ainsi. Il pourrait dire, certes, il n'y a rien d'observable qui permette de différencier une image rémanente d'une image mentale, en tout cas rien qu'un observateur extérieur, ou que Jean lui-même puisse exhiber ou invoquer. Mais comme dans le cas de la pierre, il doit bien y avoir une différence spécifique quelque part. Toutefois, c'est toujours notre interlocuteur qui parle, Puisque dans le cas qui nous intéresse, cette différence spécifique porte sur des objets internes et non sur des objets externes, elle doit être nécessairement vécue ou sentie par l'intéressé. Il doit exister en lui un sentiment interne de la différence entre se représenter et percevoir, même si ni lui ni nous n'en avons aucun critère. Et c'est la présence d'un tel sentiment qui doit expliquer pourquoi Jean peut déclarer avec assurance « j'ai une image rémanente » ou « j'ai une image mentale ». Mais ici, il me semble que notre interlocuteur imaginaire oublie une différence majeure entre les deux situations. Dans le cas des pierres, il se trouve de fait que nous n'avons pas de critères empiriques de différenciation, mais il est tout à fait concevable qu'il en existe, même si notre savoir actuel ne nous en a pas encore fourni. En tout cas, il y a un sens à en chercher. Mais dans le cas des images, il n'est pas concevable qu'il existe de tels critères empiriques, et il n'y a pas de sens à demander à la science de nous en chercher. Par conséquent, le propos de notre interlocuteur imaginaire est contradictoire. D'un côté, il pose qu'il doit exister une différence spécifique, comme dans le cas des pierres, et d'un autre côté, non seulement on ne dispose pour cette différence d'aucun test, mais on ne peut même en concevoir aucun. Autrement dit, c'est une différence spécifique qui, bien qu'elle soit conçue sur le modèle d'une différence empirique, est en réalité extra-empirique. Alors comment notre interlocuteur imaginaire résout cette difficulté ? Eh bien en attribuant précisément, comme on l'a vu, à l'esprit de pierre, à l'esprit humain, une capacité de saisie immédiate de certaines différences extra-empiriques. Pierre, du seul fait qu'il a ou vit une image rémanente, aurait un sentiment spécifique pour lequel, certes, il n'aurait aucun critère, mais grâce auquel il saurait que c'est une image rémanente, une perception, et non une image mentale qu'il a. Alors, cet interlocuteur que je viens d'essayer de faire parler, auquel je viens d'essayer de présenter une objection wittgensteinienne, notre interlocuteur est très exactement, au sens où Wittgenstein l'entend, un métaphysicien. C'est-à-dire quelqu'un qui confond questions empiriques et questions conceptuelles, quelqu'un qui cherche à résoudre des questions conceptuelles avec des méthodes qui imitent les démarches empiriques, mais sans en respecter les exigences. Pour le dire autrement, quelqu'un qui, pour résoudre une question conceptuelle, utilise une démarche qui se veut analogue à celle qui ont cours dans les questions empiriques, à cette différence près qu'elle s'exempte de toutes les contraintes, observabilité, testabilité, contrôle des hypothèses, qui confèrent aux démarches empiriques leur validité. Et dans le cas de la philosophie de la psychologie ou de la philosophie de l'esprit, cette démarche conduit à attribuer à l'esprit humain des pouvoirs quasiment magiques, par exemple à prétendre qu'il suffit d'avoir ou de vivre une certaine expérience pour l'identifier, et pour l'identifier comme l'expérience qu'elle est, la différencier de tout autre, et en quelque sorte pour savoir l'expérience qu'elle est. C'est ce que j'appellerais l'illusion phénoménologique. Si vous lisez des articles contemporains, par exemple sur la question de la conscience, ou la conscience phénoménale, ou sur les concepts phénoménaux, vous trouvez à la base de la plupart des positions, enfin des positions défendues en philosophie de la conscience contemporaine, cette idée, au fond, que d'une certaine manière, avoir une certaine ou vivre une certaine expérience, c'est nécessairement savoir quelle expérience on a. Sixième et dernier point, comment décrire conceptuellement, donc, et non pas pseudo-empiriquement, les différences conceptuelles ? Alors Wittgenstein nous dit, le mot voir, je cite à nouveau la citation de tout à l'heure, le mot voir ne peut pas nous enseigner ce que nous avons à faire de lui. Ce doit être le contexte dans lequel il se trouve. Ou encore, c'est la manière dont il parle de ce qui est vu qui est décisive. Ça signifie que ce qui distingue voir et se représenter, ce n'est pas une propriété, mais ce sont des jeux de langage dans lesquels nous employons ces deux concepts. Alors, quel jeu de langage ? Eh bien, par exemple, imaginons une situation où il n'y a pas de maison au volet vert à portée de vue. Il y a un sens à dire à quelqu'un « représente-toi, imagine » une maison au volet vert, mais sûrement pas à lui dire « regarde la maison au volet vert », puisqu'il n'y en a pas. Alors on peut vouloir exprimer cette différence, et Wittgenstein le fait, en disant « à la différence des perceptions, les représentations sont volontaires ». Mais Wittgenstein ajoute aussitôt que cette manière d'exprimer la différence conceptuelle, elle peut être tout aussi trompeuse, car elle risque encore d'être interprétée ontologiquement. Je précise ce point. Une des caractérisations classiques les plus célèbres de la différence entre voir et se représenter, c'est celle qu'on trouve chez Hume. Hein, les perceptions et les images mentales sont toutes des représentations, des ideas, si vous voulez. Donc on crée un, un plan de comparaison, mais les premières sont plus vives que les autres. C'est la différence spécifique. Alors, on peut vouloir contester cette distinction sur des bases empiriques, en affirmant qu'il peut arriver que certaines images mentales soient plus vives que certaines des perceptions, mais la vraie critique de Wittgenstein n'est pas celle-là. Ce qu'il conteste, c'est, ou s'il conteste cette présentation, c'est au motif, c'est toujours la même chose, hein, qu'il institue un plan de comparaison homogénéisant qui rend perception et représentation trop comparables. C'est pourquoi il lui substitue le critère de la volonté. Mais si on dit les représentations mentales sont volontaires et les perceptions non, on court immédiatement le risque de mal interpréter cette formule, c'est-à-dire d'interpréter volontaire, comme on interprétait tout à l'heure vivace, comme une propriété ontologique distinctive entre deux sortes d'expériences vécues, ce qui serait reconduire le modèle de la description ontologique. Alors Wittgenstein nous met aussitôt en garde, c'est la citation 11, par la phrase, et je crois que c'est une remarque qui met le doigt vraiment sur quelque chose d'essentiel, par la phrase « les représentations sont volontaires, mais pas les sensations », on ne différencie pas les sensations des représentations, mais les jeux de langage dans lesquels nous avons affaire à ces concepts. C'est là que se situe la différence intéressante et pertinente pour Wittgenstein. Donc la comparaison pertinente, elle n'est pas entre les phénomènes ni entre les expériences prises isolément en elles-mêmes, mais entre les jeux de langage au sein desquels nous avons appris les concepts voir et représenter. Et ceci diffère du tout au tout. Citation 12. Quand enfant, nous apprenons à utiliser les mots voir, regarder, se représenter, entrent alors en jeu des actions volontaires, des ordres, mais d'une manière différente pour chacun de ces trois mots. Le jeu de langage avec l'ordre « regarde » et celui avec « représente-toi », comment dois-je seulement les comparer? Si nous voulons dresser quelqu'un à réagir à l'ordre « regarde » et si nous voulons en outre le dresser à comprendre l'ordre « représente-toi », nous devons manifestement lui apprendre tout autre chose. Les réactions qui appartiennent à l'un de ces jeux de langage n'appartiennent pas à l'autre. Donc, la conclusion, c'est que les concepts de voir et d'imaginer sont en un certain sens incomparables, car ils reposent sur des modes d'apprentissage et sur des jeux de langage qui ne sont pas dans un espace commun de comparaison. Alors on mesure ici le caractère à première vue paradoxal de la tâche que s'assigne Wittgenstein. Comment comparer entre eux les concepts psychologiques s'ils sont incomparables, s'il n'y a pas de plan de comparaison, hein? Et comment en donner une présentation d'ensemble, c'est bien ça le but, synopsis, hein? Sans réinstaurer à chaque fois et à chaque pas, des plans de comparaison. Alors ça m'amène à mon cinquième point, là, parce que j'ai donné un petit semblant de plan. C'est que ce problème n'admet pas de solution tant qu'on est victime d'une autre illusion, qui est liée à l'illusion ontologique, et que j'appellerais ici l'illusion définitionnelle, on pourrait aussi l'appeler l'illusion socratique, laquelle consiste à penser que le sens d'un concept nous est donné par sa définition, voire, version plus forte de la même idée, que nous ne savons ce que signifie un concept que si nous sommes en mesure d'en donner une définition. Alors pourquoi est-ce là une illusion? Une définition, c'est un énoncé qui se présente à la fois comme une description et comme une règle censée embrasser tous les usages corrects possibles d'un concept. Or, soutient Wittgenstein, une telle description exhaustive ou une telle règle embrassant tous les usages corrects possibles ne saurait exister. Ou plus précisément, ce que je dis là est un petit peu grossier, un petit peu schématique, on peut exprimer les idées de Wittgenstein sur ce point par quatre affirmations. Premièrement, il n'existe pas et ne peut pas exister de description exhaustive des usages d'un concept. Deuxièmement, s'il en existait une, non seulement elle serait inutile, mais elle serait fausse, car elle ne rendrait pas compte de la manière dont nous apprenons et utilisons en réalité nos concepts. Troisièmement, l'hétérogénéité intrinsèque de nos concepts est irréductible, elle est celle des divers jeux de langage où ils sont susceptibles d'être utilisés, et un concept est d'autant plus hétérogène, donc, et d'autant plus volatile, comme dit ailleurs Wittgenstein, qu'il est plus général. Et enfin, les divers usages d'un même concept sont cependant reliés entre eux par une régularité approximative, analogue à celle qui existe entre les diverses variations par lesquelles on peut passer à partir d'un même motif initial. Pensez aux variations d'un motif musical, ou aux variations d'un motif décoratif dans un tapis ou dans une tapisserie. Alors le texte le plus clair et le plus complet sur ce point est un ensemble de remarques qui datent de mars 49, qui sont restées manuscrites et dont l'importance risque de passer en partie inaperçue à cause du découpage malheureux auquel ont procédé les éditeurs. En effet, ils ont réservé un premier volet aux remarques mêlées, au motif sans doute qu'il est question du concept de Dieu. Dans les remarques mêlées, on a fait un fourre-tout, on a mis les remarques de Wittgenstein sur l'art, sur la religion, sur la culture, sur son époque, etc., etc., sans trop se soucier du contexte dans lequel elles venaient. Et puis le second volet de cet ensemble de remarques, mais qui forme à mon avis un tout, se trouve dans les derniers écrits sur la philosophie de la psychologie, dans ce qui a été traduit en français sous le titre « D'études préparatoires à la seconde partie des recherches ». Mais il me semble que ce second volet se comprend mieux si on ne le coupe pas complètement de la première, du premier volet, notamment de la seconde moitié du premier volet. Alors le texte commence par des considérations sur l'argument ontologique, c'est de là que part Wittgenstein, je les laisse ici de côté, et puis il glisse à la question de savoir comment nous avons pu apprendre l'usage du concept Dieu. Et c'est cette question qu'il conduit à celle qui nous intéresse, peut-il exister une description générale et exhaustive des usages d'un mot ? Alors je lis l'ensemble de ce texte, c'est un petit peu long comme citation, mais bon, ça, je crois que ça aide à voir les questions que Wittgenstein se pose. Comment le mot Dieu nous a-t-il été enseigné, c'est-à-dire son usage ? Je ne puis donner de cela aucune description grammaticale exhaustive. Mais je peux, pour ainsi dire, apporter une contribution à cette description. Je peux dire à ce sujet beaucoup de choses, et peut-être, avec le temps, établir une sorte de recueil d'exemples. Pense ici que dans un dictionnaire, on donnerait peut-être volontiers une telle description de l'usage, mais que dans la réalité, on ne donne que quelques exemples et éclaircissements en petit nombre. Mais en outre, il n'est pas nécessaire non plus d'en donner davantage. Que pourrions-nous bien faire d'une description démesurément longue ? Certes, nous ne pourrions rien en faire s'il s'agissait de l'usage des mots d'une langue qui nous est familière. Mais qu'en serait-il si nous nous trouvions devant une description de l'usage d'un mot assyrien ? Et dans quelle langue ? Eh bien, dans une autre, connue de nous. Dans la description surviendront souvent les mots « parfois », « le plus souvent », « habituellement » ou « presque toujours ». Et il est difficile de se faire une bonne image d'une telle description. Et c'est ici qu'on trouve la formule que vous citiez à l'occasion de l'exposé de Denis Perrin. Hein. Mais au fond, je suis bien un peintre et souvent un très mauvais peintre. Alors ici s'arrête ce qui a été repris dans les remarques mêlées, et le texte du manuscrit se poursuit. Pense par exemple à la description des motifs. Est-il donc clair que l'on doive comprendre la description du motif d'un chagrin ? Car les motifs d'un chagrin sont entrelacés à 1000 autres motifs. Est-il clair que quelqu'un doive pouvoir apprendre la technique pour utiliser la désignation de cette sorte de motif ? Qu'il soit capable, comme nous, de l'extraire de la masse des autres motifs ? Je saute un paragraphe. La description de l'usage d'un mot. Le mot est prononcé. Dans quel contexte ? Nous devons donc trouver quelque chose de caractéristique dans ces événements particuliers, une sorte de régularité. Mais nous n'apprenons pas l'usage des mots à l'aide de règles. Comment donc pourrais-je donner à quelqu'un une règle prescrivant dans quel cas il doit dire « il a mal » ? Mais en revanche, il y a une légalité approximative dans l'usage qu'un homme fait effectivement d'un mot. Je veux dire, il n'est pas acquis d'avance qu'il existe quelque chose comme une description générale de l'emploi d'un mot. Et même si quelque chose de cette sorte existe bien, le degré de détermination que doit avoir une telle description n'est pas acquis d'avance. Dans quelles circonstances extérieures, appelle-t-on quelque chose une expression de la douleur ? Or, c'est pourtant là une question importante, même si on dit que l'expression vraie de la douleur correspond à quelque chose d'intérieur. Mais puis-je décrire ces circonstances ? Et pourquoi non ? Je pourrais donner des exemples, cela est clair. Comment puis-je apprendre à décrire ces circonstances ? Même l'a-t-on appris ? Ou bien, que devrais-je observer pour ce faire ? Et la même chose vaut pour les signes extérieurs de la simulation. Et si j'imagine maintenant une liste de telles circonstances, pour qui présenterait-elle un intérêt ? Certes, des aperçus singuliers ont en effet de l'intérêt, mais une liste qui tendrait à l'exhaustivité serait-elle intéressante ? En aurait-on un usage pratique ? Ce n'est pas du tout de cette façon que fonctionne ce jeu. Alors, que dit ce texte, qu'il faudrait commenter évidemment beaucoup plus en détail que je ne peux le faire ? Premièrement, qu'il n'est pas acquis d'avance qu'il existe quelque chose qu'on pourrait appeler une description générale de l'emploi d'un mot. Deuxièmement, dans le cas où il s'agit d'un mot courant de notre langue, nous ne savons pas à quoi pourrait ressembler une telle description. Troisièmement, toujours dans le cas où il s'agit d'un mot courant de notre langue, nous ne savons pas trop à quoi une telle description pourrait servir ni comment nous pourrions l'utiliser. Et enfin, quatrièmement, que de toute façon, ce n'est pas à partir d'une telle liste et donc pas à partir d'un système exhaustif de règles que nous apprenons effectivement l'usage des mots. Nous n'apprenons pas l'usage des mots à partir de règles. Ce n'est pas du tout ainsi que fonctionne ce jeu. Alors de ce quadruple constat, on peut tirer, et Wittgenstein tire, l'enseignement suivant. C'est que pour avoir un intérêt, pour être utile, pour être éclairante, la description des usages d'un mot doit être fidèle à la manière dont ce mot peut être appris. Elle ne saurait donc consister en une liste exhaustive, mais plutôt dans des exemples, dans des indications, dans ce que Wittgenstein appelle des aperçus singuliers. Et c'est ainsi, effectivement, que nous apprenons les mots en étendant à d'autres contextes l'usage de mots qui ont été appris dans des situations, au départ, toujours singulières. On peut, me semble-t-il, appeler cet apprentissage un apprentissage créatif. Autrement dit, l'idée de Wittgenstein, c'est que l'apprentissage du langage lui-même est toujours un apprentissage créatif. Et il peut toujours s'étendre à partir de là. J'aurais envie de dire que tout apprentissage donc, du langage est un apprentissage créatif, au sens où il présuppose chez l'élève la capacité d'étendre l'emploi d'un mot appris dans une situation déterminée à d'autres situations, à d'autres contextes, plus ou moins éloignés, mais éventuellement très éloignés. Par conséquent, une description de l'usage d'un mot qui se présenterait sous la forme de règles déterminées, fixant à l'avance tous les cas où il est prescrit ou interdit d'employer ce mot, non seulement serait impossible, inutile, mais en outre, elle ne serait pas à proprement parler la description véritable de l'usage de ce mot, puisque ce n'est pas de cette manière, à partir de règles exhaustives, que nous apprenons l'usage des mots. Donc une description statique, en quelque sorte, de tous les usages d'un mot ne serait pas fidèle à cet usage, puisque par définition, elle néglige la possibilité permanente que nous avons d'étendre l'usage de ce mot à d'autres contextes, possibilité qui est à la source même de notre apprentissage du mot et donc de notre capacité de l'utiliser. Donc une liste de tous les usages ne rendrait pas compte de ce qu'est notre véritable usage. Alors de quelle manière pouvons-nous décrire les usages d'un concept, c'est-à-dire donner de ce concept une description grammaticale, puisque ce n'est pas sous la forme d'une description exhaustive des usages, ni sous celle d'une règle qui serait capable d'engendrer tous ces usages. La solution suggérée par le texte, c'est de considérer les différents usages d'un même concept comme des variations à partir d'un même motif, d'un même muster. Certaines de ces variations sont simples, d'autres plus complexes, d'autres et plus éloignées. Et surtout, il n'est pas toujours facile de savoir si un cas de figure donné est une variation à partir d'un motif A ou à partir d'un motif B. Mais le point important est que le passage d'une variante à l'autre, d'un usage à l'autre, bien qu'il ne se conforme à aucune règle à proprement parler, s'opère néanmoins selon ce que Wittgenstein appelle une sorte de régularité ou encore une légalité approximative. Alors la question à laquelle nous arrivons maintenant peut s'énoncer de la manière suivante. Comment une présentation de nos concepts psychologiques peut-elle être comparative ? Sans céder aux trois illusions dont nous avons parlé, illusion définitionnelle, celle dont je viens de traiter, l'illusion ontologique et illusion phénoménologique qui l'accompagne le plus souvent quand il s'agit de philosophie de la psychologie. Quel procédé de clarification Wittgenstein a-t-il inventé dans sa philosophie de la psychologie qui met en œuvre cette méthode de variation du motif? Alors il y en a de nombreux, là ici je me heurte à la difficulté que la manière dont procède Wittgenstein, vous l'avez compris, n'est jamais en survol, mais toujours à partir d'analyses concrètes et détaillées. Et que si on veut comprendre comment il procède, on ne peut pas se mettre à le présenter en survol, parce qu'on retrouvera un mode de présentation, définitionnel, un mode de présentation avec plan de comparaison. Hein, c'est-à-dire qu'on fera l'inverse de ce qu'il faut faire. Et donc, je crois qu'il est bien plus... la seule solution est de prendre des exemples précis, pour me donner une idée du genre de choses qu'il fait. Donc je m'en tiendrai à une des innovations les plus typiques de cette période et à son recours à ce que j'appellerais des phénomènes grammaticaux. Deux exemples de phénomènes grammaticaux pour situer les choses tout de suite, les expériences de signification et les expériences du surgissement ou d'illumination d'un aspect. Et c'est à ce dernier type de phénomène que je me limiterai. Donc les phénomènes d'apparition ou de surgissement d'un aspect. Un mot quand même sur cette expression que j'emploie de phénomène grammatical. Dans son exposé, il y a deux mois, Denis Perrin avait souligné un trait essentiel de la vision synoptique, c'est qu'elle s'opère, disait-il, à travers des modèles. Au tout début des années 30, à travers des modèles du type de l'octaèdre des couleurs, et bientôt, expliquait-il, ce sont les jeux de langage, petits scénarios élémentaires et primitifs, qui jouent ce rôle de modèle. Dans la philosophie de la psychologie, Wittgenstein invente, je crois, une nouvelle sorte de modèle, en tout cas utilise certains phénomènes comme des modèles, et c'est pourquoi on peut les appeler des phénomènes grammaticaux. Ils ont, à mon avis, cinq caractéristiques. Premièrement, ce sont des phénomènes très circonscrits, bien délimités, qu'il est facile de se représenter et de garder sous les yeux. Deuxièmement, ce sont des phénomènes néanmoins complexes, dérivés. Ils ne sont ni élémentaires ni primitifs, au sens, par exemple, où le jeu des maçons, au paragraphe 2 des recherches philosophiques, a quelque chose d'élémentaire ou de primitif. Pour avoir une expérience de l'aspect, pour voir une certaine figure comme un lapin, quand on voit le dessin du canard lapin, il faut non seulement être capable de voir et d'identifier un lapin, mais également et surtout de voir et d'identifier une image de lapin. Autrement dit, le voir comme présuppose non seulement le voir ordinaire, mais il présuppose aussi le voir une image. Troisièmement, ces phénomènes grammaticaux sont des phénomènes, et c'est ça le point clé, dont la description soulève immédiatement des problèmes conceptuels particulièrement délicats qui font partie du phénomène lui-même. Autrement dit, la difficulté conceptuelle fait partie de l'expérience même, d'une certaine manière. L'étonnement que suscite l'émergence d'un nouvel aspect n'est pas seulement l'étonnement devant un phénomène curieux ou devant une bizarrerie. C'est un étonnement qui résulte d'une certaine mise en déroute de nos catégories habituelles. Nous disons voir quelque chose de nouveau, un lapin, mais rien n'a changé dans ce que nous avons sous les yeux, et notre position par rapport à ce que nous avons sous les yeux n'a pas changé. Et pourtant, nous voulons bien dire, non pas que nous interprétons la figure comme un lapin, mais que nous voyons un lapin. Et cet étonnement grammatical fait partie de l'expérience de l'illumination de l'aspect. Quatrième point, la solution du problème grammatical, ou peut-être simplement même le fait de poser explicitement ce problème, jette rapidement une lumière sur les concepts psychologiques qui sont en jeu, c'est-à-dire voir une image, penser, se représenter, etc. Et par là, apporte un éclairage nouveau sur l'ensemble du réseau des concepts et contribue donc à la constitution de la vision synoptique. Dernier point, l'importance que vit... Ça, c'est ce que je vais montrer tout à l'heure, dans un instant. Dernier point, l'importance que Wittgenstein accorde à un phénomène comme l'expérience du surgissement de l'aspect, mais la même chose vaut pour l'expérience de la signification, réside d'abord et avant tout dans le rôle stratégique qu'il lui fait jouer dans la construction d'une grammaire des concepts psychologiques. Il y a, me semble-t-il, un contraste assez évident entre l'insignifiance et le caractère tout à fait marginal du phénomène en question, des images devinettes, des figures ambiguës, des lettres ou des figures géométriques vues bizarrement, en gros des trucs pour les pages magazines, les pages jeux des magazines pour enfants. Donc un contraste entre cette insignifiance ou ce caractère marginal et la place exceptionnelle que Wittgenstein accorde à leur analyse. Je n'ai pas compté, mais c'est au moins 1000 remarques, sinon 2000, qu'on trouve dans la philosophie de la psychologie sur la question de la perception des aspects et du voir comme. Comme on dit, c'est le phénomène le plus étudié par Wittgenstein dans sa philosophie de la psychologie. Alors du coup, certains commentateurs, là je vais peut-être un petit peu vite, mais certains commentateurs ont tendance à voir du voir comme partout. Et d'autres en tirent l'idée que le voir comme serait essentiel en esthétique, en mathématiques, dans les sciences, etc. Je crois qu'il n'en est rien. Il y a bien sûr des applications du voir comme. Wittgenstein en donne quelques exemples. L'idée qu'une façade peut sembler regarder, une fenêtre peut sembler regarder d'une certaine manière, et pas dans une certaine direction. Ou en mathématiques, une certaine facilité à pratiquer la géométrie descriptive. Enfin, c'est très marginal par rapport à l'importance fondamentale de ce concept pour Wittgenstein. Et c'est l'importance conceptuelle, c'est l'importance grammaticale, évidemment, qui est cruciale pour lui. C'est ma citation 15. Quelle est l'importance philosophique de ce phénomène? Est-il donc beaucoup plus étrange que les expériences visuelles ordinaires? Jette-t-il sur celle-ci une lumière inattendue? Dans sa description, culminent les problèmes qui touchent au concept du voir. Autrement dit, si vous savez, si vous réussissez à apprendre à décrire le voir comme, alors vous pourrez réussir à décrire beaucoup plus correctement le concept voir. Autrement dit, c'est pour ça que je crois que ce phénomène, Wittgenstein l'utilise comme un modèle à travers lequel il va essayer de regarder ce que c'est que voir, ce que c'est que voir une image, mais aussi ce que c'est que penser, se représenter, etc. Alors, quel genre de leçons peut-on tirer du canard-lapin et des expériences de perception de l'aspect, ou de surgissement de l'aspect, pour la compréhension de ce que Wittgenstein fait dans sa philosophie de la psychologie? J'indiquerai deux de ces leçons. La première peut être tirée, me semble-t-il, de la manière même dont Wittgenstein construit la catégorie de voir comme à partir de l'expérience de l'aspect, ou plus exactement, parce que c'est cela qui est important, à partir des déclarations en première personne, des énoncés psychologiques typiques en première personne, auxquels nous avons recours pour identifier et pour décrire cette expérience. En effet, il existe, précise Wittgenstein, autant de sortes d'expériences de l'aspect qu'il existe de sortes d'aspects perçus. Mais ce qu'elles ont en commun, et ce qui autorise, selon lui, à les regrouper sous un même concept, c'est évidemment pas une sensation spécifique qui les accompagnerait toutes, selon le schéma de ce que j'ai appelé tout à l'heure l'illusion phénoménologique, ni non plus un acte mental qui les engendrerait. C'est uniquement, comme on pouvait s'y attendre, leur expression, autrement dit, ce que nous disons typiquement quand nous les éprouvons. Citation 16. Il y a de nombreuses sortes d'expériences vécues de l'aspect. Ce qu'elles ont en commun est l'expression « je le vois maintenant comme ceci » ou « je le vois maintenant ainsi » ou « maintenant c'est ceci, maintenant cela ». Mais l'éclaircissement de ce « ceci » ou de cet « ainsi » est, selon la diversité des cas, la chose la plus diverse qu'on puisse concevoir. Alors, les expériences aspectuelles sont effectivement à bien des égards très dissemblables les unes des autres. Wittgenstein distingue notamment les aspects optiques, qui ne présupposent la possession d'aucun concept, mais simplement de certains schèmes visuels. Par exemple, voir la croix noire et blanche, vous l'avez dessinée sur votre document, tantôt comme une croix noire sur un fond blanc ou tantôt comme une croix blanche sur un fond noir. Donc ça, exemple d'aspect optique. Et les distinguer des aspects conceptuels, par exemple, aspects conceptuels qui présupposent la possession et la maîtrise de concepts déterminés et de pratiques visuelles élaborées. Par exemple, voir un triangle comme une montagne, un triangle isolé, hein, comme une montagne, le triangle que vous avez dessiné sous les yeux, comme une montagne. Ou bien encore, voir la croix noire et blanche, mais comme une aile de moulin, qui n'est pas tout à fait la même chose que de la voir simplement comme une croix noire sur fond blanc. Or, il ne va pas de soi que les aspects optiques et les aspects conceptuels doivent être rassemblés sous une même catégorie. Un psychologue gestaltiste comme Köhler, par exemple, ne peut voir aucune raison d'opérer un pareil regroupement. Les seuls changements d'aspect qui l'intéressent sont ceux qui concernent les aspects optiques, changements qu'il interprète comme des changements dans l'organisation visuelle, à partir d'une théorie qui fait de l'organisation quelque chose qui est vu au même titre que la forme et la couleur. En revanche, les aspects conceptuels, dont à ma connaissance il parle très peu, ou pour ainsi dire pas, relèverait vraisemblablement pour lui bien plus de l'imagination ou de la pensée, et non de la perception. Alors sur quoi Wittgenstein s'appuie pour opérer ce regroupement de ces deux sortes d'aspects, pour constituer la catégorie de voir comme il la constitue? Exclusivement, comme il le dit, et comme il fait toujours, sur la considération de nos déclarations en première personne. Les déclarations du type « maintenant je vois ceci comme un A » et qui se caractérise par plusieurs traits grammaticaux, je n'en retiendrai qu'un. Hein. Le fait qu'elles ont toujours recours à une comparaison. Donc pour bien comprendre ce qui fait la spécificité de ce mode de description qui unifie la catégorie hein, des expériences aspectuelles, qui unifie la catégorie du voir comme, on peut le comparer, j'ai déjà expliqué ça dans d'autres circonstances, on peut le comparer avec la description d'une impression visuelle, avec la description d'un contenu visuel qui se fait, elle, au moyen d'une image. Bon, par exemple, c'est un exemple que je trouve assez parlant, Monet peut intituler le même tableau « La cathédrale de Rouen par un matin ensoleillé », donc description de ce qu'il a objectivement vu, ou bien « Mon impression visuelle devant la cathédrale de Rouen par un matin ensoleillé ». La même image peut servir à donner une description objective de ce que j'ai vu, je décris l'objet que j'ai vu, et une description subjective, je décris mon impression visuelle. Le même outil de description fonctionne dans les deux jeux de langage, et la description d'un objet public, ici d'un tableau, peut me servir à décrire mon impression subjective aussi bien que ce que j'ai objectivement vu. Mais évidemment, c'est ce qui est impossible dans le cas du canard lapin. Si je copie ce que j'ai sous les yeux, avant puis après le changement d'aspect, ben, je vais faire deux fois le même dessin, et vous ne saurez absolument rien de ce qui a changé dans mon impression visuelle, de ce qui a changé pour moi. Pour vous informer de la différence entre mes impressions visuelles avant et après le changement d'aspect, il ne suffit pas que je copie la figure que je perçois, autrement dit la figure qui est dessinée sur votre document. Il faut en outre que je dessine à côté une image typique de lapin qui va fonctionner, dit Wittgenstein, comme un modèle indiquant ce comme quoi je vois ce que j'ai sous les yeux. Autrement dit, la dualité copie-modèle est intrinsèque à toute description et même à toute identification de l'expérience d'un aspect. Sans indication du modèle qui décrit ce comme quoi je vois la figure, modèle qui pourtant n'est pas présent dans la figure et fonctionne d'une certaine manière comme une interprétation de la figure, je ne saurais même pas identifier ma propre expérience. Cette description a donc l'air d'être indirecte, mais indirecte n'a pas de sens, parce qu'il n'existe pas de description plus directe, et notamment pas de description qui pourrait faire appel au langage des sensations ou qui présupposerait un objet interne. Alors, c'est cette dualité de la copie et du modèle qui se retrouve, vous le remarquerez, aussi bien dans le cas des voir comme optiques, la croix noire ou blanche, que dans celui des voir comme conceptuels, le triangle vu comme une montagne ou comme un objet insolide renversé. C'est cette dualité qui fait la spécificité du mode de description des aspects et qui assure l'unité de la catégorie de voir comme. Alors, parce qu'il n'est pas attentif, comme le relève Wittgenstein d'ailleurs, aux déclarations en première personne et à leur grammaire spécifique, quelqu'un comme Kohler ne peut pas reconnaître cette catégorie et ne peut pas voir non plus le rapprochement qu'elle permet d'opérer entre aspect optique et aspect conceptuel. Ce qui est lié, du point de vue de Wittgenstein, à une double erreur grammaticale de Kohler. Premièrement, Kohler a tendance à faire de l'organisation quelque chose que nous voyons au même titre et sur le même plan, toujours la même chose, que les formes et les couleurs. Et il est insensible au fait que quand il s'agit d'aspects, le concept voir ne fonctionne pas de la même manière que quand il s'agit de formes et de couleurs. La preuve, du point de vue de Wittgenstein, c'est que pour décrire les formes et les couleurs qu'on voit, il suffit de copier ce qu'on a sous les yeux. Mais pour décrire l'aspect, ce que Kohler appelle l'organisation, il faut recourir, comme je viens de l'expliquer, à un modèle en plus de la copie, ce qui montre qu'il n'y a pas de plan de comparaison commun aux formes et aux couleurs, d'une part, et à l'organisation, d'autre part. Donc, dire qu'on voit l'organisation comme on voit les formes et les couleurs, c'est adopter un mode de pensée ontologique qui homogénéise les catégories qui sont en réalité radicalement différentes, qui appartiennent à des jeux de langage différents. Et du coup, on est poussé à traiter l'aspect comme un objet un peu étrange, qui n'est pas vraiment interne, puisque Kohler insiste pour dire que l'organisation, elle est vue à même ce qu'on a sous les yeux, mais qui ne peut pas être vraiment externe non plus, puisqu'aucune copie de ce qu'on a sous les yeux ne peut le saisir. Et deuxièmement, Kohler, parce qu'il a un concept purement optique du voir, s'interdit de saisir la parenté entre voir l'organisation et voir la signification, et il n'admet pas qu'on puisse en ce sens, voire une signification. Alors cette double erreur le conduit à manquer la tension entre voir et interpréter, ou entre voir et penser, qui est, du point de vue de Wittgenstein, constitutive de l'expérience aspectuelle. Il se rend donc insensible au problème catégorial ou au problème grammatical que pose le phénomène de la perception de l'aspect, et du coup, il passe à côté du phénomène lui-même, qui n'existe que par cette tension entre voir et penser. Citation 17 et 18. Il faut se garder de penser ici dans des catégories psychologiques importées, par exemple, de démembrer simplement l'expérience vécue en un voir et un penser. Et encore, mais puis-je, dans l'Aufleuchten de l'aspect, l'illumination de l'aspect, le surgissement de l'aspect, séparer l'expérience visuelle de l'expérience d'une pensée? Si tu les sépares, alors l'Aufleuchten de l'aspect semble se perdre. Donc, la double erreur grammaticale de Köhler le conduit à ne pas prendre l'expérience ou le phénomène au sérieux, à perdre le phénomène, comme dit Wittgenstein. Autrement dit, les erreurs de grammaire, les erreurs dans la description du fonctionnement de nos concepts, se payent ici, si je puis dire, dans la phénoménologie, c'est-à-dire qu'elles conduisent à fausser la description des phénomènes. Et c'est parce que Köhler, du point de vue de Wittgenstein, a une grammaire incorrecte qu'il a une phénoménologie incorrecte. Je voudrais insister sur cette solidarité entre phénoménologie et grammaire. Je crois que c'est un point important qui n'est pas toujours souligné. C'est que dans la philosophie de la psychologie, l'exactitude de la phénoménologie fonctionne comme un test de la correction de la grammaire. Alors bien entendu, il ne s'agit pas du tout de dire que cette relation serait analogue ou identique à celle qui existe entre des hypothèses théoriques et des tests expérimentaux, mais il me semble quand même que la correction ou l'incorrection de la grammaire se montre dans la justesse ou dans l'inadéquation de certaines descriptions phénoménologiques. Autrement dit, Wittgenstein à la fois distingue très soigneusement, comme je l'ai souligné plus haut, comparaison entre les phénomènes et comparaison entre les concepts. Elles ne sont pas du même ordre, elles ne s'effectuent pas dans le même espace. Mais le travail de clarification philosophique repose sur, me semble-t-il, un va-et-vient constant entre les deux. Alors on peut comprendre à partir de ces analyses pourquoi Wittgenstein accorde au concept de voir comme un rôle stratégique dans sa description des concepts psychologiques, et pourquoi il juge utile et même nécessaire de l'introduire dans le tableau des concepts psychologiques, quelque part entre le voir, le penser et le se représenter. Et c'est la seconde leçon que l'on peut tirer du canard lapin. Bon, quand je dis du canard lapin, je veux dire du voir comme en général et des analyses sur l'expérience de l'aspect. Seconde leçon qu'on peut tirer concernant pour comprendre ce que signifie et ce que veut faire et comment fait Wittgenstein pour la présentation synoptique. En effet, si Wittgenstein propose qu'on fasse place au concept de voir comme, c'est pas parce qu'il aurait découvert une nouvelle sorte de phénomène intéressant, comme ce pourrait être le cas s'il faisait un travail scientifique, ni parce qu'il voudrait faire reconnaître l'importance de phénomènes déjà reconnus mais jusqu'ici négligés, c'est plutôt parce que l'introduction de ce nouveau concept fait voir par elle-même de nouvelles parentés, de nouvelles différences entre nos concepts. Autrement dit, pour continuer sur l'image des motifs dans le tapis, comme si l'attention à un petit motif négligé dans un coin du tapis ouvrait de nouvelles manières de parcourir du regard l'ensemble de la surface en décelant entre ces divers motifs des séries de variations qui sont restées jusque-là invisibles. Je voudrais indiquer deux variations. Peut-être même que je n'en indiquerai qu'une, parce que je voudrais laisser quand même du temps à la discussion. La série qui m'intéressera est celle qui va du voir comme au voir une image, et même jusqu'au concept d'image tout court. Que se passe-t-il quand, pendant quelques secondes, je vois un simple triangle dessiné isolément sur une feuille de papier, comme vous l'avez sur la vôtre, quand je le vois comme une montagne ou quand je le vois comme un solide renversé? Dans une série de remarques qui ont été reprises dans la seconde partie des recherches, Wittgenstein suggère l'explication suivante. Bien que rien dans le contexte n'indique que ce triangle figure une montagne, ni un quelconque objet renversé, ma capacité préexistante à voir dans un triangle figurant dans un tableau une montagne ou un objet renversé se trouve en quelque sorte mobilisée et pendant quelques secondes, et de manière instable, je vois le triangle isolé comme la montagne ou comme l'objet renversé dont il pourrait, dans le contexte d'un tableau, me fournir une image stable. C'est un peu ramassé, je vais déplier tout ça. On peut dire que l'expérience de l'aspect présuppose deux conditions, une condition logique et une condition psychologique. La condition logique est la suivante. Pour qu'une figure X puisse être vue momentanément comme un A ou comme un B, il faut que dans un autre contexte, celui d'un tableau par exemple, elle puisse jouer de manière stable le rôle d'une image de A ou de B, être de manière stable un A en image ou un B en image. Par exemple, pour que la figure du triangle prise isolément puisse être vue temporairement comme une montagne ou comme un solide renversé, il faut que dans le contexte d'un tableau de paysage, elle puisse jouer de manière stable le rôle d'une image de montagne, être une montagne en image, ou que dans un tableau représentant une scène domestique, cette même figure puisse jouer de manière stable le rôle d'une image de morceau de cruche brisé, par exemple, jonchant le sol, être un morceau de cruche brisé en image. Et ainsi, du point de vue logique, le voir comme repose sur l'inversion de la relation être une image, pour que A et B, ou que A ou B, soient ce comme quoi je vois X, il faut que X puisse être, dans certains contextes tout au moins, une image stable de A ou de B. Et Wittgenstein formule lui-même cette condition logique de la manière suivante, c'est ma citation 19, « Je peux voir quelque chose comme cela dont cette chose peut être une image. Les aspects dans le changement d'aspect sont ceux que, dans certaines circonstances, la figure pourrait avoir de manière statique dans une image. » Et la condition psychologique, c'est elle qui va m'intéresser davantage, est la suivante. Pour que je puisse voir X momentanément comme un A ou comme un B, il faut que, dans certains contextes, je sois capable, en regardant X, d'avoir une expérience visuelle d'un A en image ou d'un B en image. Exemple. Pour que je puisse voir un triangle comme une montagne ou comme un solide renversé, il faut que, dans le contexte d'un tableau de paysage, je sois capable, en regardant le triangle qui est peint, de dire, non pas « je vois un triangle », mais bien plutôt, que j'interpréterais comme une montagne, hein, mais bien plutôt des phrases comme « on voit là une montagne, il y a une montagne à l'arrière-plan, cette montagne a l'air escarpée », etc. Ou dans le contexte d'un tableau qui représente une scène domestique, je sois capable, en regardant le triangle qui est peint, de dire des phrases comme « on voit sur le sol un morceau de cruche cassé » ou « la cruche a été cassée », etc. Alors, du point de vue psychologique, le voir comme présuppose chez le spectateur une capacité de réactiver, face à la figure isolée, un certain type d'expérience visuelle qui lui est familière dans d'autres contextes, comme celui des images d'un livre ou de tableaux accrochés au mur. Et c'est cette capacité que Wittgenstein vise quand il écrit, citation 20, « Moi qui regarde, je ne dis pas « cela peut aussi représenter quelque chose de renversé », mais « la cruche est renversée et elle gît en morceaux sur le sol ». C'est ainsi que nous réagissons à l'image. Alors, il vaut la peine de s'arrêter sur cette dernière remarque, car on voit ici comment l'analyse grammaticale du voir comme, en établissant un lien entre voir comme et voir une image, attire l'attention sur la phénoménologie et sur la grammaire de la perception des images elles-mêmes. Si je regarde une photo ou un paysage de montagne sur laquelle l'une d'entre elles a la forme d'un triangle, je ne dis effectivement pas habituellement que je vois un triangle ou que j'interprète le triangle que j'ai sous les yeux comme une montagne, je dis, hein, je vois une montagne, il y a à droite une montagne en forme de triangle, etc. Autrement dit, je ne traite pas la photo comme si je voyais un ensemble de lignes et de taches que je devrais ensuite interpréter, comme je le ferais avec une carte. Je réagis à la photo du paysage comme je réagirais au paysage lui-même. Non pas que je sois victime d'une illusion et que je prenne la montagne en photo pour une montagne en roc et en glace, mais à certains égards, je traite la montagne une image comme je traiterais la montagne en roc et en glace. Et de la même manière, si je regarde un tableau qui représente une scène domestique, dans lequel l'artiste a figuré au moyen d'un triangle un débris de cruche cassée jonchant le sol, je ne dirais habituellement ni que je vois un triangle, ni que j'interprète le triangle que j'ai sous les yeux comme un débris de cruche cassée, je dis simplement « je vois sur le sol à droite un morceau de cruche cassée » ou encore « il y a un débris de cruche cassée sur le sol ». Et bien que le morceau de cruche soit figuré sur le tableau au moyen d'un simple triangle, je réagis face à ce morceau de cruche en image comme je réagirais face à ce même morceau de cruche en faïence dans la réalité. Alors bien sûr, il n'en irait pas de même si le même triangle figurait le même morceau de cruche, mais dans un diagramme ou dans un plan. Hein ? Imaginons qu'après un meurtre, le détective arrivé sur les lieux ait voulu relever la disposition des objets dans la pièce. Sur une feuille de carnet, il représente grossièrement l'emplacement de la table avec un rectangle, l'emplacement de la chaise au moyen d'un carré, et puis le débris de cruche cassé au moyen d'un triangle. Ici, on pourra dire qu'on voit le triangle et qu'on l'interprète comme un morceau de cruche brisé. Alors vous allez me dire, mais au fond, Wittgenstein n'a rien de très original, il fait que reprendre la distinction reçue entre diagramme et icône. Mais en fait, le traitement qu'il en propose n'est ni ontologique, relatif à la nature ou à l'être des images, ni sémantique, relatif à la manière dont les images réfèrent à ce qu'elles représentent. Il est phénoménologique, au sens où il est relatif au type d'expérience visuelle que certaines images et non d'autres suscitent en nous, et il est grammatical, c'est-à-dire relatif au type de déclaration et de réaction auxquelles ces images nous entraînent. Alors si je continuais cette série, je ne fais qu'amorcer une série de variations là, ça nous conduirait à caractériser certaines sortes d'images, non par le type de relation ontologique ou sémantique qu'elles entretiennent avec ce qu'elles sont censées représenter, mais par le type de relation psychologique, pratique, langagière que le spectateur entretient avec elle. Et on tomberait sur un autre phénomène grammatical que Wittgenstein nomme les objets-images, ou, dans certains manuscrits, les êtres-images. Deux citations pour vous donner une idée de ce que c'est, puis j'arrêterai la série là. Citation 21. « Il est utile ici d'introduire le concept d'objet-image. Un visage-image, par exemple, serait cette figure. » À bien des égards, je me comporte envers lui comme envers un visage humain. Je peux scruter son expression et réagir comme à l'expression d'un visage humain. Un enfant peut parler à un homme image ou un animal image, les traiter comme il traite ses poupées. Ou encore, l'image d'un visage humain, d'un homme ou d'un animal, même la plus schématique, est pour moi, c'est ainsi que j'aurais envie de m'exprimer, visage image, homme image, animal image. Un visage, un homme, un animal, de plein droit. Quand nous le regardons, nous ne pensons pas à un visage réel. Il n'y a pas de relation à ce qui est censé être représenté. Aurait-on envie d'expliquer ? Un homme-image serait une variante bidimensionnelle d'être humain. Alors, poursuivre sur ce thème m'entraînerait un peu trop loin, parce que, évidemment, ça oblige à remodeler, en quelque sorte, la catégorie d'image, à diversifier conceptuellement entre des images ou des usages différents des images. Tout ça parce qu'on est parti du canard lapin. Ce que je voulais montrer, en fait, par cette démonstration peut-être un peu trop détaillée, mais ce que je voulais montrer, c'est par quel travail minutieux d'analyse grammaticale et conceptuelle détaillée, Wittgenstein glisse d'un motif à l'autre, ou d'une variation d'un motif à l'autre, et comment l'expérience de l'aspect, disons le canard lapin, pour aller vite, peut servir d'outil d'analyse, d'outil d'investigation pour comprendre d'autres concepts et pour caractériser d'autres concepts, pour opérer d'autres distinctions, pour voir d'autres différences et pour voir d'autres ressemblances. Je laisse de côté la seconde série qui touchait à la relation entre voir et voir comme. Vous lirez les... Parce que l'heure a beaucoup tourné. Vous lirez les extraits si ça vous intéresse et vous verrez les connexions vous-même. On pourra en reparler pendant la discussion. Un mot pour conclure. Il me semble que les résultats auxquels conduit la présentation synoptique ou grammaticale des concepts psychologiques peuvent être utiles même à des philosophes qui ont opté pour d'autres démarches et qui ont peu de sympathie pour les visées thérapeutiques. Wittgenstein pensait manifestement que sa manière de philosopher devait pouvoir nous suffire et remplacer toutes les autres, mais trop souvent le débat entre ceux qui se revendiquent comme ses héritiers ou ses interprètes et les autres, ressemblent à un dialogue de sourds entre des gens qui auraient été convertis à une religion ou à une idéologie, et d'autres qui ne le seraient pas. Alors c'est une situation un peu paradoxale, parce que la philosophie de Wittgenstein se veut résolument non dogmatique au sens technique du terme, c'est-à-dire au sens où elle ne requiert ni ne prescrit aucune thèse, aucun principe, aucune opinion, et où elle entend ne rien faire d'autre que décrire rappeler un certain nombre de traits grammaticaux du fonctionnement de notre langage, traits que nous sommes en principe tous capables de reconnaître, du seul fait que nous parlons, et traits sur lesquels, par conséquent, nous devrions pouvoir nous mettre d'accord. Autrement dit, ces traits, s'ils sont avérés, et les remarques qui les relèvent, devraient pouvoir constituer une sorte de fond commun où chacun devrait pouvoir puiser en fonction de ce qu'il estime être ses besoins. Et à partir de ce moment-là, la différence devrait plutôt se faire, me semble-t-il, entre ceux aux besoins philosophiques desquels ce travail de redescription grammaticale de nos usages suffit, ceux pour qui il représentera le tout de l'activité philosophique, et ceux qui utiliseront ces distinctions ou ces descriptions grammaticales comme un ensemble d'outils pour construire à leur manière leur propre maison, avec de l'ontologie ou pas. Donc, je soutiendrai pour ma part non pas l'affirmation forte « tous les philosophes devraient abandonner leur manière ontologique ou autre de philosopher et se rallier, séance tenante à la grammaire philosophique », mais une affirmation plus modérée « tous les philosophes, mais néanmoins exigeante, hein, tous les philosophes, quel que soit leur style de philosophie préféré, devraient pouvoir apprendre de la grammaire philosophique, telle que Wittgenstein l'a pratiquée, quelque chose qui soit susceptible de leur être utile. » Merci.